RNV Podcast. 8h-10h sur RNV. On va pas s'énerver.
Pour la suite de cette matinale, j'ai le plaisir d'avoir une invitée. Elle s'appelle Lola. Salut Lola.
Salut.
Musicienne, autrice, compositrice et interprète. Tu arrives de la région lausannoise, de Lausanne même, je crois d'ailleurs.
Tout à fait.
Musique plutôt indie folk, mais très ouvert.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a plusieurs influences. Hein. La majorité, c'est en effet de l'indie folk. Après, il y a quand même des influences de pop, des influences... Il y a des sons un peu lo-fi aussi, mais j'écoute pas mal de jazz, donc ça fait une petite infusion qui se retrouve à droite à gauche dans ma musique. Mais la majorité de la musique, je dirais que c'est indie folk.
En fait, ce cocktail, on va dire, il est vraiment issu de ce que t'écoutes ?
Je pense que oui, parce que je réfléchis pas quand je fais de la musique, donc ça doit bien venir de quelque part. Mais oui, je dirais que ce que j'écoute majoritairement, c'est de l'indie folk, indie rock, pas mal aussi. Ça se retrouve dans quelques morceaux avec des influences petites, mais ouais, j'ai écouté aussi... pas mal de jazz à un moment donné, pas mal de musique classique, c'est quelque chose qui... J'en ai joué pas mal aussi, j'ai fait 10 ans de piano.
Ouais.
Donc c'est aussi... Enfin, avec le recul, en écoutant les morceaux, c'est des petits éléments parfois où, dans certains morceaux, je me dis « Ah, c'est marrant, là, ça vient peut-être plus de la musique classique, ça, il y a des sonorités un peu plus jazz. » Mais oui, c'est vrai que si je vais dans ce que j'écoute, les artistes principales, en fait, parce que j'écoute majoritairement des femmes, mais il y aurait Lizzie McAlpine, Madison Cunningham... Phoebe Bridgers, Beatrix, il y a aussi Andy Schoff. Enfin, c'est des artistes qui sont vachement dans ce qu'on appelle la sphère indie folk.
Pas du tout de musique francophone ?
J'en ai écouté pas mal quand j'étais ado. Enfin, ouais. J'ai grandi avec de la chanson française, en fait. Donc, ça a plus une place, on va dire,
Madeleine
affective.
De Proust, ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, exactement. Mais j'en écoute pas tant que ça... Enfin, ma cam, c'est vraiment la musique anglophone, quoi.
Parce que je crois savoir que t'as quand même grandi dans un milieu musical.
Oui, d'une certaine manière. Mes grands-parents sont musiciens, même musiciens classiques. Et puis, j'ai fait du piano quand j'étais petite, un peu de comédie musicale aussi. Donc, il y a toujours eu un amour de la musique. Après, mes parents ne sont pas musiciens. Donc oui et non.
Ces 10 ans de piano, t'en gardes quoi aujourd'hui ? Est-ce que ça t'a laissé de bons souvenirs de la musique classique ou est-ce que, au contraire, ça a été quelque part une certaine épreuve et ça t'a donné envie de faire autre chose ?
Je pense que j'en garde surtout un bon souvenir. C'est quelque chose que j'ai adoré. Je pense que ça m'a vraiment... déjà, ça m'a permis de développer mon oreille et ça m'a permis de développer une forme de sensibilité aussi. En tout cas, je me souviens que quand je jouais des pièces, j'adorais surtout la période romantique. Mais c'était vraiment un moyen d'expression assez important pour moi. Et puis ensuite, j'en suis arrivée à une période de ma vie où il fallait que je fasse des choix parce que j'avais trop de choses à faire. Et donc, j'ai arrêté le piano parce que je ne le travaillais plus. Mais oui, j'en garde vraiment un bon souvenir. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parfois, ça me manque encore un petit peu. Mais vu que j'ai la musique sous une autre forme, j'y reviens pas encore.
Mais tu le joues encore de temps en temps ou plus du tout ?
Je joue un petit peu.
Quand même. Ouais.
Après, j'ai un clavier chez moi et j'avoue que le plaisir, ça reste quand même de jouer sur un beau piano. Mais vu que j'en ai pas un dans mon appartement directement, mais qu'il est dans la maison de mes parents, je joue de manière plus occasionnelle. Mais ça m'arrive encore de faire des reprises en m'accompagnant au piano.
Tu l'as pas totalement oublié non plus.
Non, non.
Et puis, c'est clair qu'on parle de folk. L'instrument principal de la folk, ça reste la guitare.
Oui, je pense que c'est pas forcément. Je me suis pas tournée vers la guitare parce que c'était l'instrument folk. Où je me disais, ok, j'écoute de la folk, donc je vais jouer de la guitare. Je pense que c'était... la première fois que j'ai touché à une guitare, j'étais en échange en Allemagne pour quelques mois. Il y avait une guitare dans le salon de ma famille d'accueil. Puis vu que j'avais un peu que ça à faire, parce que je comprenais rien à l'allemand, j'ai un peu commencé comme ça à gratter. Et puis,
Kann ich bitte Gitarre spielen ?
Voilà, exactement. Et ouais, ensuite, je crois que ce que j'aime vraiment dans cet instrument, c'est le fait... Enfin, il y a deux choses que j'aime beaucoup. La première, c'est le fait que c'est un instrument qu'on joue contre soi. Et le piano, c'est devant soi. La guitare, c'est vraiment contre. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, je pense. Et la deuxième chose que j'aime dans la guitare, c'est que c'est un instrument que je ne maîtrise pas totalement. Parce que je maîtrise, on va dire. Je sais jouer de la guitare, mais je n'ai pas les codes techniques. Je ne sais pas faire des gammes. Je ne sais pas jouer tous les accords. Donc en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que en composant le piano, je me sentais un peu plus bloquée parce que je savais ce que je jouais, alors qu'avec la guitare, je pouvais me permettre de juste expérimenter, essayer de créer un peu des accords et d'y aller juste à l'oreille, de me dire ok, si je mets mon doigt sur cette frette, ça donne cette sonorité, si je change l'accordage de ma guitare, ça donne ça. Et puis je crois que ce que j'aime aussi beaucoup dans la guitare, c'est le fait que je peux en avoir plusieurs. Un piano, ça coûte cher.
Bien sûr.
Et du coup, ouais, c'est vraiment aussi cette ouverture de son, mais hyper organique, parce qu'on parle de l'instrument en tant que tel et pas d'effets qu'on vient rajouter par-dessus. Mais je pense que c'est tout ça qui fait qu'au final, j'ai jamais trop lâché la guitare, en fait.
Est-ce que t'as un côté très perfectionniste ?
Je pense qu'il y a un côté perfectionniste, ouais.
Ce qui peut expliquer le problème avec le piano, c'est que t'as tellement entendu des choses qui ont été évidemment composées par des grands compositeurs, etc., avec une précision terrible, et en plus de façon très carrée, puisque c'est de la musique classique, que quand tu compares ça à des compositions que tu pourrais faire, qui peut-être sont plus légères, bah évidemment, tu as un niveau d'appréciation qui est extrêmement strict.
Je pense que... Enfin, ça pourrait expliquer, mais c'est pas... enfin, parce que je suis perfectionniste, dans le sens où je sais ce que j'aime en termes de son et que je vais pas lâcher facilement, en fait. Je suis quelqu'un qui... Les gens, ils aiment bien dire que je suis staccanoviste. Hein. Alors, je sais pas si c'est mieux que perfectionniste, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, quand je travaille, je vais jusqu'au bout et je fais en sorte que... Ouais, que la vision que j'ai pour une certaine chose dans la musique, voilà, j'ai vraiment envie de travailler pour y arriver. Mais après... Je sais pas, je pense que c'est plus un feeling aussi parfois qu'on a avec certains instruments, qu'on a dans l'écriture. Moi, ça s'explique pas trop, mais c'est vrai que j'ai composé des morceaux au piano aussi, et j'en ai composé à la guitare, j'en ai composé avec un instrument qu'on appelle l'auto-harpe aussi, dont je jouais un peu à un moment donné. Et puis en fait, les compositions que je préférais, là où je me sentais le plus à l'aise, le plus libre, c'était la guitare.
C'est le gamin de ta créativité, voilà. C'est très bien comme ça. On a beaucoup entendu parler de toi en début d'année dernière, avec un passage sur Radar à la RTS, avec le morceau Rewind, qui a aussi été passé d'ailleurs sur notre antenne, ainsi que Perks of Living qui arrivait un petit peu plus tard. Est-ce que tu nous parlerais en deux mots de ces deux morceaux ?
Rewind, c'était mon premier single. Je trouve que pour moi, c'était important de sortir ces deux premiers singles, je pense, pour avoir l'espace d'expérimenter, aussi de comprendre ce que c'est que d'aller en studio, d'avoir un peu plus des clés techniques, de comprendre dans quel univers est-ce que je voulais que ma musique aille. Donc je pense que, du coup, Rewind, c'est une de mes compositions, ouais, qui est une chanson un peu purement de rupture, c'est un peu chanson triste de rupture, et c'est une chanson qui a une production assez, assez forte. Il y a beaucoup d'harmonie, il y a des percussions qui sont un peu, pas lourdes, mais qui sont assez présentes. Et du coup, pour ça, c'est un morceau qui m'a été très... Enfin, que je chéris beaucoup, parce que c'est les harmonies vocales, c'est quelque chose qui m'est très important, et c'est quelque chose que j'ai vraiment développé dans ce morceau-là.
Oui.
Et c'est aussi le premier morceau que je présentais en dehors du moi, on va dire, que je présentais aux autres.
Puis qui a un bel écho en plus.
Voilà, à 100%. Et après, maintenant, avec le temps, ça fait moins écho à la musique que je fais maintenant. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était un peu plus... c'est la première fois que j'allais en studio. Et puis, c'est pas les producteurs non plus avec qui j'ai travaillé sur l'album. Pour Perks of Living, c'est le même producteur sur qui j'ai travaillé avec l'album, qui s'appelle Lorik Matte, qui est batteur aussi.
Qu'on connaît pas loin évidemment d'ici, très bien dans le Nord-Vaudois, mais oui, voilà, bien sûr. qui bosse sur 1000 projets.
Exactement, il est fantastique. Et on a travaillé sur Perks of Living ensemble. On s'est rencontrés pendant le confinement sur les réseaux sociaux. Il y avait des, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait un peu parfois des petits jeux comme ça où certaines personnes créaient une suite d'accords et puis ils taguaient des gens qui devaient emmener cette suite d'accords plus loin, et puis ces gens taguaient d'autres personnes puis du coup on finissait par composer un peu ce que les gens avaient commencé.
Je suis pas sûr d'avoir vu passer ça, mais excellent jeu, et puis ça m'étonne pas venant de musicien.
Et ben voilà, on faisait ça pas mal, et Lorik avait écrit une grille d'accords, et puis en fait on s'est rencontrés comme ça, parce que des personnes taguent d'autres, on tague d'autres, et puis je me suis retrouvée au milieu de tout ça.
Meilleure façon de faire.
Voilà, et en fait on est resté en contact, et il m'a demandé si ça me disait de venir enregistrer un morceau une fois. Donc en fait, Perks of Living, la version single, c'est vraiment un peu une rencontre musicale entre nous deux, quoi. C'était de la coproduction, on s'est vraiment amusé. Et en fait, un an plus tard, je lui ai réécrit en lui disant: cool Lorik, j'aimerais bien enregistrer un album, est-ce que t'as envie d'enregistrer un album avec moi? Il m'a dit: oui, mais pourquoi tu veux faire ça avec moi? et parce que lui, il me disait qu'il faisait peut-être un peu... Enfin, il a plus l'habitude de produire des albums vraiment produits, ou des albums un peu plus pop, ou les albums... Enfin, là où il joue pas mal de l'indie, c'est à la batterie, mais sinon, ce qu'il produit, généralement, c'est relativement pop. Enfin, je veux pas parler à sa place, hein, en tout cas, je crois.
Ouais, écoute, je suis assez d'accord.
Et ouais, du coup, il m'avait posé la question de pourquoi est-ce que je voulais faire ça avec lui. Puis moi, je savais pas trop, mais je sais pas, j'avais un feeling, ouais. Et au final, j'ai vachement bien fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec tous les musiciens qui ont bossé sur l'album, c'est qu'au final, j'avais jamais joué avec. Je les connaissais soit de nom, soit de réputation, soit. Mais en fait, c'était un feeling. C'était de me dire, ok, je sais pas, cette personne, je la sens vraiment bien, et je suis sûre que ça va être fantastique. Et en fait, il s'est passé des choses merveilleuses sur cet album. Et ouais, je suis contente d'avoir fonctionné au feeling.
Alors, on l'aura compris, et ça fait 2-3 minutes que tu nous parles d'album. Il y a un album qui arrive.
Oui, oui.
On va pas en parler tout de suite, puisqu'il sort le 21 mars. On aura le temps d'y revenir. Est-ce qu'il a déjà un nom?
Oui, il s'appelle No Clock Ticking.
Cool, cool, on y reviendra bien sûr. Mais par contre, on se 31 janvier, il y a déjà un petit aperçu de cet album qui sort, puisque tu sors un single qui s'appelle Buttercup. Mm-hmm. Alors, parle-nous un peu de ce morceau.
C'est le morceau le plus vieux, entre guillemets, de l'album. Donc, c'est un des premiers morceaux que j'ai écrit. Et c'est un morceau qui parle d'une forme d'ambivalence, qui est de quand on est dans une relation... Et on a à la fois envie de rester dans cette relation et de partir de cette relation. Et ça parle un peu de ces questionnements qui cohabitent intérieurement. Et ça parle aussi de faire son deuil de la relation avant qu'elle se termine.
Okay.
Donc ça, c'est un peu en termes de paroles. Et puis, donc c'est un morceau indie folk ish, parce qu'il y a plein d'influences différentes dedans. Il y a des guitares assez rapides. Et puis, en fait, c'est drôle parce que c'est un morceau qu'on a failli enregistrer avec Lorik en tant que single la première fois qu'on s'est rencontrés.
D'accord.
Et à ce moment-là, Lorik m'avait dit « Je visualise bien des quick drums dessus, du coup des batteries assez rapides comme sur le morceau Wars de Elisa Shaddad. » Je sais pas si tu vois.
Ouais.
Et en fait, 2 ans plus tard, l'idée, elle est restée. Et du coup, c'était un peu la base du morceau. Et en fait, avant d'aller en studio avec Lorik, j'ai fait une résidence d'une semaine au studio Artefax à Lausanne,
oui,
pour préparer pour faire la pré-prod en fait. Et puis j'ai travaillé avec un ingé son qui s'appelle Mike Kundaeli. On a travaillé pas mal sur ce morceau, en se disant aussi quelle intention est-ce que je veux mettre dedans, quel type d'harmonie est-ce que je veux ajouter, parce qu'il y a souvent des harmonies dans mes morceaux aussi, c'est quelque chose d'assez important qu'il y a dans Buttercup. Et puis on avait envie qu'il y ait un élément qui soit assez grave, que ce soit une voix d'homme, on avait utilisé un octaveur aussi sur ma voix pour vraiment venir descendre les tons. Et pour moi, c'était pas assez organique, donc c'est un peu une idée qu'on a laissée de côté. Et au moment où j'ai appelé le bassiste, donc c'est Pierangelo Crescenzio,
bien connu aussi.
Bien connu aussi. Ça m'a assez touchée parce que donc on a montré le morceau, ils se sont mis dans une pièce avec Lorik, donc ils ont joué ensemble la section rythmique. On a enregistré comme ça. Et puis j'ai trouvé ça fantastique parce que la première proposition qu'il fait, il a pris du coup une 5 cordes fretless, je crois. Et il avait justement ce qu'on peut entendre sur le single, une basse hyper grave qui vient vraiment contraster avec la rapidité de la batterie, la rapidité de la guitare aussi.
Mm-hmm.
Et j'ai trouvé ça fantastique parce que c'était en fait l'élément que je voulais essayer d'apporter dans les harmonies que j'aimais pas et ce qui a réussi à être apporté justement sans qu'on en discute au préalable par cette basse. Et ouais, donc c'est un peu l'histoire de ce morceau. Il y a une basse qui est un peu élastique comme ça, qui s'étend, qui rebondit, une batterie qui court vachement, des guitares qui courent aussi beaucoup. Il y a plusieurs guitares qu'on a assemblées, plusieurs sons, donc c'est un peu tout ça qui se retrouve dans ce morceau.
En termes de méthodologie de travail, tu fonctionnes comment? Est-ce que d'abord tu as des idées de mélo qui viennent et puis tu vas composer par rapport à ça, ou est-ce qu'on est plutôt sur d'abord un texte et puis il faut l'habiller?
Moi, je commence toujours par la guitare.
Mmh.
Ça me donne une bonne base aussi parce que je ne suis pas une grande fan des 4 accords magiques et j'ai quand même envie que mes grilles d'accords elles soient complexes en termes d'harmonie. Même si je ne sais pas ce que je joue, hein, j'ai quand même d'oreille, j'ai envie que ça...
C'est ça, ouais, que ça sonne.
Que ça sonne bien. Mmh. Et donc, je commence toujours par la guitare. Généralement, je trouve une première partie de la chanson. Ça peut être un couplet, un refrain, je ne sais pas trop ce que c'est sur le moment. Et ensuite, je viens créer des mélodies. Donc, j'enregistre en fait tout pendant que je le fais avec mon dictaphone, parce que sinon, je ne me souviens pas.
Logique.
Et j'enregistre des mélodies. Ensuite, il y a des mots qui viennent, c'est un peu du yogourt, ça ne veut rien dire. Il n'y a aucune intention dedans en tant que texte. Et puis, après, je regarde. Parfois, il y a certaines phrases qui reviennent. Et du coup, je me dis, OK, donc j'écris cette phrase. Et puis, après, je brode. Je fais ce que j'appelle un peu du puzzle, c'est-à-dire que j'ai, pour éviter les gros morceaux de blanc, parce que c'est difficile d'écrire une chanson et de partir de rien, je trouve, j'ai pas mal de textes. Je dois avoir une trentaine de fichiers Word sur mon ordi avec juste des textes, avec des phrases que j'aime bien, des mots où la sonorité me titillait. Et puis en fait, j'ouvre un peu toutes ces pages et je cherche. Et d'un coup, par rapport aux phrases que j'ai trouvées en yogourt en écrivant le morceau, je me dis « Ah bah ça pourrait bien répondre avec ça ». Puis je commence à assembler un peu, à faire du puzzle. Puis au bout d'un moment, je me dis « Ok, maintenant je vois un peu dans quelle direction ça part, la chanson peut parler un peu de ça ». Et du coup, après, j'oriente et je finis d'écrire comme ça. Donc en fait, c'est un peu guitare, voix, texte, mélodie. Et après, je reviens à la guitare parce que je suis là « Ok, j'ai fini cette partie, donc il m'en faut une prochaine ». Et puis ça se fait un peu comme ça.
Est-ce que le texte, finalement, va aussi arriver un peu comme un instrument et puis habiller la chanson, plus que finalement être écrit comme on pourrait écrire une poésie ou comme est-ce que le texte a un but en soi ou est-ce que finalement c'est vraiment un texte qui est ramené pour servir la chanson ?
Non, je pense que le texte, il a vraiment un but quand même en tant que soi. On dirait pas dans mon processus d'écriture, mais... Au final, toute la production, elle est faite dans les chansons pour mettre le texte en avant. Et je le travaille beaucoup pour que, voilà, il y a quand même des tournures de phrases qui soient intéressantes, pour qu'il y ait des métaphores, pour qu'il y ait quelque chose qui soit un peu... qui relève de l'imaginaire, en fait. C'est pas que ce soit... Enfin, à la fois que ce soit un texte qui soit assez cru et assez honnête et assez vulnérable, mais en même temps que... Ouais, en même temps qu'il y ait certaines fois où le texte puisse être assez flou, avec des métaphores assez... presque un peu étrange parfois, qui permettent à l'auditeur, à l'auditrice de s'imaginer un peu sa propre histoire.
La complexité du texte, centrale. Évidemment, dans une région où on est plutôt francophone, elle va échapper à un certain nombre de personnes. Est-ce que quand tu te produis, tu expliques un peu tes morceaux ? Comment ça se passe ?
Oui, en concert. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien expliquer les morceaux avant de les jouer. Après, libre aux gens d'écouter ou non les paroles, mais pour moi, c'est aussi une histoire d'intention, de quoi est-ce que le morceau parle. C'est le texte, il n'est pas là pour rien non plus, donc oui, j'explique.
C'est vrai qu'il y a un peu des écoles, hein, surtout dans la chanson anglophone. On sait que, notamment dans la pop, dans le rock, les paroles sont plus utilisées en tant qu'instrument que véritablement en tant que vecteur d'idées. Mmh. Et c'est vrai que la folk a aussi cette particularité d'avoir souvent des textes qui sont plus profonds. C'est pas pour rien qu'un certain Bob Dylan a chopé un prix Nobel de littérature. Au passage, on parlait de la scène, justement. Dans quelle formation tu te produis ?
Je me produis toujours toute seule. Parce que y a plusieurs raisons à ça, mais j'aime bien me produire seule parce que je trouve que ça me permet d'avoir l'essence même du morceau sur scène. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les concerts intimistes et ça permet, enfin cette formation permet vraiment de l'intimité. Et en plus de ça, j'ai aussi, enfin ce que j'aime avec le fait d'être toute seule, c'est que ça me permet de, je peux pas me cacher en fait derrière d'autres musiciens. Et on parlait de perfectionnisme avant. Pour moi, c'est une manière de perfectionner mes morceaux, de vraiment trouver mon son autant... du coup, ça fait 3 ans que je me produis en live. Donc, je pense que si je ne m'étais pas produite autant toute seule en live, l'album, il n'aurait pas la même essence. Et je pense que ça m'a vraiment permis de comprendre en termes de son ce que j'aimais, en termes de présence aussi, comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que je peux me défendre toute seule ? Et je trouve que, enfin, si un jour j'ai envie d'avoir une formation différente de la formation solo, je pense que ça m'aura appris beaucoup de choses de me produire toute seule. Donc, pour le moment, j'aime bien être seule sur scène.
Donc, t'estimes encore actuellement sur scène être en phase d'apprentissage ?
Mais je pense qu'on apprend toute sa vie. Je pense que le jour où je serai en band, je serai encore plus en phase d'apprentissage que ce que je suis maintenant toute seule sur scène. Mais
disons que tu as besoin de trouver un équilibre de cette, par rapport à cette formation solo, comme tu l'appelles, avant d'évaluer ou d'envisager éventuellement de changer quelque chose.
Mm-hmm. Je pense que je n'ai pas envie de dépendre d'autres musiciens non plus. J'ai envie d'être suffisamment solide pour pouvoir me dire « Ok, mon projet, il marche toute seule. » Et s'il y a d'autres formations qui se créent, c'est par envie en fait, de créer une atmosphère ou des histoires différentes. Et d'habiller en fait la base différemment. Mais j'ai envie que la base elle existe quand même, puis qu'elle puisse avoir un espace dans lequel fleurir, sans que ce que les gens entendent de moi, c'est tout le temps du full band. Et je pense que c'est important pour me faire ma place, mais que c'est aussi important pour pour plein d'autres raisons. C'est aussi intéressant d'être seule sur scène parce que j'ai des morceaux en studio qui sont pas forcément juste guitare-voix simple. Et je trouve que ça permet de proposer autre chose, pas dans le sens où c'est complètement différent, parce que je travaille de manière à ce que le studio reflète le live quand je suis seule sur scène. Mais ça permet d'avoir un niveau d'intimité différent et une proposition différente.
Est-ce que tu prends d'ailleurs certaines libertés sur tes morceaux ? Est-ce que tu vas adapter tes chansons en fonction de, je sais pas, l'humeur du moment, l'ambiance qu'il y a dans la salle, etc.
Généralement, c'est quand même souvent les mêmes bases de morceaux. Après, je fais souvent des reprises, une reprise en général dans les concerts d'une artiste que j'aime beaucoup, puis je change. Donc ça, j'adapte. Mais après, oui, évidemment que les morceaux, ils changent de... Enfin, il n'y a pas deux concerts qui se ressemblent, c'est... Les concerts, c'est tellement un échange qu'on a avec le public, avec l'endroit. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'on se sent sur le moment. On reste, on n'est pas des machines, donc les morceaux sonneront jamais deux fois la même chose.
Et c'est aussi l'avantage d'être en solo sur scène, puisque évidemment tu n'as pas à t'entendre avec les musiciens. Tu travailles pas avec un clic, avec des bandes son ou que sais-je. Et donc évidemment, ça laisse une liberté totale.
Aussi. Tout à fait.
On va s'écouter bien sûr ce morceau Buttercup pour terminer. Est-ce que tu as des concerts à venir ? Est-ce que tu as des choses à annoncer de ce côté-là ?
Oui, j'ai plusieurs concerts. J'ai un concert au festival Antigel à Genève, en première partie de Villagers. Et sinon, j'ai des concerts en Suisse allemande qui vont venir. Il y a le vernissage de l'album aussi qui va se faire. J'ai pas encore tout à fait le droit d'annoncer où ça va être, quand ça va être. Donc je ne dis pas, mais on peut retrouver toutes les dates sur mon site web. C'est lola-don'tforgettheline. Donc n'oubliez pas la ligne. Et puis, il y a un endroit, enfin un petit endroit où on peut cliquer qui s'appelle Tours. Et là, il y a toutes mes dates. Sinon, il y a les réseaux sociaux aussi. Je suis sur Facebook, Lola avec une barre au-dessus du A. Je suis sur Instagram
donc Forget the Line, aussi, etc. Oui. etc. Sur MX3.
Voilà, partout. Si jamais vous ne savez pas comment faire la ligne au-dessus du A, il faut appuyer longtemps sur le A. Il y a plein d'accents qui s'affichent et c'est l'accent plat.
Pourquoi d'ailleurs ? Simple histoire graphique ou il y a autre chose ?
Non, c'est graphique.
Ok. Je vais te proposer autre chose aussi. Moi, j'aime bien terminer mes interviews avec un deuxième morceau qui est un choix de l'artiste. Artiste suisse. Lequel ? Ou laquelle ?
Il y a tellement de super artistes suisses.
Oui, c'est difficile.
Bah alors, l'artiste que je vais te citer, c'est Meimouna, une artiste et une personne que j'aime beaucoup.
Cyrielle Format de son vrai nom,
exactement.
Mais bien sûr.
Mais du coup, elle chante en français, mais je sais pas, sa musique me touche vraiment infiniment. Puis là, elle vient de sortir un album qui est absolument sublime, qui est hyper organique, qui est magnifique.
Et t'as une envie de morceau particulier ?
Arracher les ombres, je pense.
C'est parti, merci Lola.
Merci à toi.
Meant to last forever. What what a strange dream that I've had. I have a few more like that one, you know. I didn't think that you could let me make my farewells. No regrets, not even one tear on the set. We settled up too close to lasting more than what we really should have. Oh, what a strange dream that I've had. It feels weird knowing all those things I know. I didn't think that you could let me go. Entre mes mains tout s'embrasse. J'ai peur de me fuir à la nage. Tracer
www.radionv.ch.